Encore une nouveauté dans la Terre à boire, encore une nouvelle chronique. On ne cesse d'innover, enfin bon, gentiment, on introduit petit à petit des petites évolutions, des petits changements. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de réfléchir un petit peu. On réfléchit évidemment, on parle des vins, mais est-ce qu'on va un peu plus loin? Alors ça a donné des idées à Patrice, qui s'est lancé dans une nouvelle chronique qui s'appelle tout simplement « Ma terre à penser ». Patrice, on t'écoute, pensez.
Oui, bonsoir.
Avec une voix suave, on pense mieux.
C'est important, on pense mieux. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon.
Vaste sujet.
Exactement. Ne dit-on pas qu'un vin est rond, floral, minéral, velouté, charnu? Il doit donc s'agir d'une affaire de goût. Mais le vin se révèle aussi souvent racé, élégant, raffiné, avec du style. On dit aussi que c'est un vin d'auteur. C'est donc aussi une affaire, une question d'esthétique. Pour ce qui est du bon, la plupart des magazines spécialisés, des critiques et des œnologues utilisent un système de notes. Ces notations, en général de 100 ou notées sur 20, peuvent certes permettre de faire une première sélection et de s'y retrouver dans une offre foisonnante et dure à appréhender. Mais ils ont surtout eu pour conséquence de créer une valeur marchande et une hiérarchie des vins sur une échelle de ce qui doit être le bon goût. Dès lors, un vin peut être bon ou pas, comme si un gradient objectif définissait ce qui est bien ou pas. Ce classement a conduit à une uniformisation des goûts et une définition d'un style quasiment unique que beaucoup ont essayé de suivre afin de faire du vin un produit bon, imitant un standard prédéfini. Je préfère pour ma part reprendre la deuxième définition du bon. Est bon ce qui est propre à sa nature, c'est-à-dire ce qui est unique. Aimer un vin au sens plein du terme « aimer », c'est-à-dire que l'on n'aime pas quelque chose parce que cette chose est belle, mais c'est parce qu'on l'aime qu'elle le devient. C'est avant tout une expérience subjective et personnelle. L'histoire d'une rencontre entre un breuvage et un individu. Tous les vignerons et tous les vigneronnes vous le diront, en tout cas ceux qui ont de la famille dans le vin de leur grand-père a un goût particulier à leurs lèvres, meilleur que n'importe quel autre. Il n'est pas que rationnellement bon, mais surtout subjectivement beau, car magnifié par le fil émotionnel, la filiation qu'il tisse entre les générations, le lien qu'il crée avec un terroir. Dès lors, la hiérarchie des vins n'est pas celle définie par une note ou, comme on appelait Robert Parker, l'oracle de Moncton, mais elle est avant tout une échelle personnelle, intime et, au final, esthétique. Pour ce qui est de l'esthétique, nous en parlerons probablement dans une prochaine chronique bacchique.
Alors, ça veut dire, donc toi tu opposes ce qui est bon et ce qui est beau. Hein,
parce que je ne l'oppose pas, je dis qu'un grand vin, il est les deux.
D'accord.
Et qu'un vin pas intéressant, il essaie juste d'être beau. Bon, pardon.
D'être bon, ouais, c'est voilà. Ça. Alors, ce qui est c'est effectivement matière à penser, matière à penser. On peut quand même dire qu'il y a des vins sur une autre échelle, des vins ratés, des vins réussis.
Complètement.
C'est une autre échelle.
Voilà. Mais c'est une question. Encore une fois, c'est une question d'esthétique. Dans l'art, il y a des trucs ratés, des trucs réussis. Donc il y a des trucs. Moi, fondamentalement, ce que j'aime dans le vin et ce que j'aime dans l'art, c'est les choses équilibrées, qui ont une certaine structure, etc. Alors, il peut avoir une certaine légèreté, mais il ne faut pas que ce soit juste des aplats de couleurs. Etc. Donc je pense que on peut joindre le bon et le beau, et qu'un vin ce qui en fait vraiment sa différence et sa qualité, c'est plutôt son approche esthétique, parce que tous les vins entre guillemets qui étaient, bon c'est un peu le passé maintenant par cœur, mais qui étaient parcœurisés, ils étaient bons, mais encore une fois ils étaient putassiers, comme dirait je sais plus comment elle s'appelle, mais la personne qui analysait les vins avec un goût chimique là, de bonbons anglais, ils étaient putassiers, c'est-à-dire qu'ils étaient fardés, décorés. Donc oui, ils pètent à la
vin avec du maquillage.
Exactement, mais c'est de la chirurgie esthétique. Hein, si le vin est vivant, il a du corps, donc si le corps est transformé, etc., on y fait de la chirurgie esthétique. Donc c'est plutôt des vins authentiques qui ont de la structure. Après, ça, bien sûr qu'il peut y avoir toujours une hiérarchie qui est personnelle, il peut y avoir une hiérarchie dans l'art, entre guillemets. Mais voilà, je pense qu'un bon vin, c'est aussi un beau vin. Alors, bon et beau, bon au sens, encore une fois, propre à sa nature, donc identifié et spécifique à un terroir. Après, voilà, dans l'art, on peut avoir des choses. Quand on parlait avec Pierre Auvernois, il nous disait que, effectivement, la première vertu de ce que lui disait Gichauvet, c'est qu'un vin, il doit être bon et désaltérant. Bah oui, on peut avoir une forme d'art. Je ne sais pas si tu écoutes Ennio Morricone, Mon nom est personne, hein, si tu vois le générique.
Bah, voilà, bien.
C'est une petite bluette sympathique, désaltérante, encore une fois, mais c'est quand même de l'art. Et puis on peut aller sur des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus structurées. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir une approche aussi esthétique du vin. C'est une démarche assez, assez personnelle. Alors ça n'empêche pas de créer des hiérarchies comme il y en a dans l'art. Mais voilà, c'est une sensation un petit peu unique. D'autres personnes disaient que, oh là là, tous les goûts sont permis dans la nature, alors quand vous voulez faire des accords parce que vous mettez une unicité sur une deuxième unicité, donc vous démultipliez, sans aller jusque-là, il y a quand même des choses qui fonctionnent, hein, et des fondamentaux qui fonctionnent dans l'art aussi. Voilà, mais je pense que voilà.
Au-delà de critères objectifs qui permettent de juger des vins, moi ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il y a une vibration particulière à chacun des breuvages. En partant du principe qu'il est bon, c'est-à-dire qu'il est réussi, comme disait Dominique Buffet il y a déjà quelques émissions, il n'y a plus de mauvais vins, pour la faire courte. Il y a pas mal de vignerons qui maîtrisent l'ensemble du processus.
C'est pour ça que je parle de dégustation sincère, c'est-à-dire qu'encore une fois, la première définition de bon, c'est qu'il est propre à sa nature. Donc, qui incarne un terroir, sa spécificité, son unicité.
Fidèle à un endroit.
Et pas qui retranscrit un standard généralisé, unifié, en fait, qui a été corrigé pour gommer les spécificités du local et qui gommait l'université.
Tout l'inverse.
Voilà, c'est l'inverse de l'authenticité pour moi. Voilà. Et l'art doit être. Enfin, le vin comme l'art, on va dire, doit être spontané, authentique, etc. Ouais. Enfin, pour en reparler si on refait cette chronique.
Ouais, c'est ça, laissant un peu de temps d'un mois sur l'autre, de la matière à penser autour du vin. Ce matériau est de toute façon matière à réflexion pour peu qu'on s'en donne un peu la peine. C'est du plaisir immédiat, mais c'est aussi, pourquoi pas, un peu d'esthétisme, un peu de réflexion artistique. Moi, j'aime bien cette idée.
Dankeschön.
Merci, Patrice. À bientôt. Ciao.